Jean de La Fontaine, diversité, c'est ma devise.
La Fontaine ne reconnaissant pas son fils, ou La Fontaine se réveillant au lendemain de son mariage, en ayant oublié qu'il s'était marié la veille. Enfin, on a tellement d'anecdotes sur la distraction de La Fontaine que ça ne peut pas être simplement le topos du poète rêveur ou du poète distrait. Je trouve que ce trait de caractère attesté par les contemporains, on ne peut pas éviter de le mettre en relation avec le côté erratique aussi de sa carrière ou de son existence, cette incapacité à tenir la ligne droite.
Patrick Dandré, Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry en Champagne en 1621. À quoi ressemblait la maison ?
La maison était une maison de bourgeois en voie d'ascension sociale, entre cour et jardin, pierre de taille, on la voit toujours, c'est le musée Jean de La Fontaine. Il y avait un jardin derrière, sans doute pour annoncer qu'il y aurait des fables, mais il y avait devant une cour à carrosse, c'est sans doute pour la vie mondaine, car La Fontaine, c'est aussi un fabuliste mondain. Et sa famille essayait de pratiquer l'ascension sociale, pour cela on prenait le titre d'écuyer, pas par snobisme, c'était un moyen de ne pas payer l'impôt, c'était une niche fiscale, si on peut dire, et La Fontaine d'ailleurs sera redressée, je crois qu'on dit ainsi, en 1662, parce que de temps en temps, l'État faisait ainsi une campagne pour vérifier que les gens étaient vraiment nobles. Et il aura d'ailleurs dans cette ascension sociale un mauvais rôle, car la succession de son père sera extrêmement embrouillée, et dans les années 70, après avoir s'être battu, débattu avec les notaires, avec les avocats, c'était alors très complexe, La Fontaine devra abandonner en gros la succession de son père, il sera sans argent, et il finira comme beaucoup de poètes de cette époque, ceux du moins qui ne faisaient pas fortune par leurs œuvres, et c'était fréquent, il finira pensionné, c'est-à-dire protégé, et en quête toute sa vie de protecteur.
Et son père était maître des eaux et forêts.
Alors son père a acheté...
Ça c'est une charge qu'on doit acheter.
Voilà, son père achetait des charges. Mmh. C'était un moyen d'entrer dans l'administration, si vous voulez, enfin, si on peut dire. C'est-à-dire un moyen de ce qu'est devenu aujourd'hui le concours. Mais au lieu de passer un concours, on achetait une fonction, et c'était à titre privé que l'on exerçait une fonction publique. Et cette fonction de maître des eaux et forêts est essentiellement une fonction de justice. Mais cette fonction de justice appelle à arpenter, disons, les territoires ruraux. La France est essentiellement rurale. La Fontaine achètera aussi un office, qui était d'ailleurs déjà dans la famille. Il héritera celui de son père également. Et on peut estimer, c'est évidemment très difficile à évaluer, qu'une part de ce regard qu'il a porté sur la nature, sur les animaux et que l'on retrouve dans les fables, a pu être, comment dirais-je, apprise, mais confortée par l'imprégnation de la nature, alors que, on le sait bien à cette époque-là, un peintre ou un poète, la nature, il la prend dans les livres.
Il se promène pas.
Non, on ne se promène pas. On va pas planter son chevalet ni à Barbizon, ni à Argenteuil. On peint d'après ce que les autres ont peint avant, c'est-à-dire que l'on est un héritier.
On ne sait pas grand-chose sur ses études. On sait qu'il a fait des études de droit. On le voit très très bien dans les contes. Dans les fables, il a une très grande expertise en la matière, une expertise technique. C'est un juriste de formation.
Jean de Guardia.
C'est très très banal, évidemment, dans son milieu à l'époque. Probablement que son père lui a fait faire ces études-là pour être à même de reprendre cette charge de maître des eaux et forêts de Château-Thierry, qui est à l'origine son destin, tout simplement. Et ces études-là sont à comprendre comme une préparation. Ça ne signifie pas qu'il avait du goût pour ça, d'aucune manière. Ça signifie simplement qu'il était destiné à ça. Mais l'intérêt des études de droit, c'est quand même l'apprentissage approfondi de la rhétorique. Et cet apprentissage, c'est le fondement, évidemment, de toute la littérature du XVIIe siècle, et notamment dans les années de formation de La Fontaine. Ce qui fait que ces études, en un sens, sont les bonnes études de l'homme de lettres au XVIIe siècle.
Ce qu'on peut connaître des premières années de l'existence de La Fontaine montre manifestement quelqu'un qui est déjà marqué par l'inconstance et quelqu'un qui est tiraillé entre différentes postulations.
Boris Donnet.
Il y a cette entrée, effectivement, dans une institution religieuse qui est assez rigoureuse, qui avait été fondée par Bérulle un peu avant, dans les années 1610 à peu près, et dont la fonction principale est l'institution des prêtres. On peut donc penser que La Fontaine, quand il y entre, c'est en se destinant à la prêtrise. Et de sa part, ça ne peut être qu'un choix entièrement délibéré, dicté par des exigences spirituelles, puisqu'il est l'aîné de sa famille. Il n'est pas du tout dans le cas de figure de ses cadets qui doivent entrer dans l'église pour faute de mieux, faute de bénéficier de l'héritage paternel. Et en même temps, ce séjour à l'oratoire est bref. On n'en sait pas d'ailleurs tout à fait exactement la durée, mais pas plus d'un an et demi, c'est certain. Ce qu'on en saura après, c'est que La Fontaine y a passé le temps curieusement, disant qu'il y consacrait plus de temps à lire l'astrée qu'à lire son bréviaire, ce qui a créé des dissensions entre l'institution et lui. Et on voit déjà quelqu'un qui manifeste sans doute un goût pour la vie contemplative, pour la méditation, pour la retraite, avec de véritables préoccupations spirituelles, ça ne fait aucun doute. Et puis en même temps, quelqu'un pour qui la littérature est, dans ses aspects les plus divertissants, est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et la sortie de l'oratoire, c'est sans doute aussi le choix de la littérature contre celui de la vie spirituelle.
Il a écrit dans tous les genres. Vous savez qu'il a écrit une tragédie et demie d'ailleurs. Il a bien fait de s'arrêter au milieu de la seconde.
Parce qu'il était très mauvais.
C'était très galant, très sensible, pas très tragique. C'était pas vraiment très bien.
C'est pas son truc, la tragédie.
Non, la tragédie, en fait, il l'a écrite dans les fables qui sont tragiques. Et si vous voulez, on peut dire que son œuvre est double parce qu'il y a d'un côté tout le reste et de l'autre côté, il y a les fables qui sont la miniature de tout le reste, hein, qui sont un peu la répercussion de tous les autres genres en même temps.
Alors tout le reste, c'est quoi, Patrick
Alors tout
Dandré
le reste, c'est énormément de contes. C'est un roman galant, c'est un songe, c'est beaucoup de poésie de circonstance, c'est un livret d'opéra, c'est une comédie, ce sont des œuvres allégoriques.
Des chansons.
Une très grande variété. On peut appeler ça ainsi, oui, des textes qui peuvent être accompagnés aux luttes, hein, des airs de cour en somme. Pas la chanson de Jacques Brel, hein, c'est pas du Brassens, mais des airs de cour, vous voyez, quelque chose qui anticipe ce qu'on appellera le Lied en Allemagne. Voilà. C'est une œuvre donc qui s'exerce à tout. Avec une spécificité essentiellement du vers. Et lorsqu'il utilise la prose, c'est du prosimètre, c'est-à-dire de la prose mêlée de vers. Hein, dans un conte qui s'appelle Psyché, il le fait, il a une très jolie prose d'ailleurs, mais c'est un mélange.
Patrick Dandré, 1658, La Fontaine est entré dans l'entourage de Fouquet grâce à son ami Pélisson, et il écrit Adonis, qui est un poème. Mmh. Il dit que c'est une idylle. Mmh. Ça appartient à un genre bas, Adonis, le poème d'Adonis.
C'est une idylle héroïque, c'est-à-dire que c'est un genre mêlé. Il faut comprendre que chez La Fontaine, il y a un esprit, je dirais, du mélange. Il est héritier d'une période de poésie absolument colossale et héritier d'une époque qui, dans l'histoire de l'Occident, a été formidable, qui est la Renaissance. Il est l'anticipateur d'une seconde période formidable qui est le siècle des Lumières avec les révolutions américaines et françaises. Entre les deux, le XVIIe siècle, c'est une charnière. C'est une charnière qui, dans toute l'Europe, est caractérisée par la tension, par le déséquilibre, par le désordre, par la mélancolie. Ça s'appelle l'époque baroque. Et puis, un isolat de calme sous le règne de Louis XIV en France, une exception française, il en faut à toutes les époques, une exception française fait que une période classique, harmonieuse, apollinienne, alors que le reste est dionysiaque, le reste de l'Europe.
Harmonieuse, mais il y a Louis XIV.
Oui,
il y a l'absolutisme.
Mais oui, mais cet absolutisme qui est encore tempéré est une marque, est une condition d'une harmonie littéraire, d'un équilibre. Et je dirais que la grande idée du XVIIe siècle, c'est le tempérament des contraires. C'est-à-dire l'idée d'équilibrer les choses. On peut être violent, mais on l'est à l'intérieur d'une forme polissée. Regardez la tragédie de Racine. On peut être critique et narquois, mais on l'est à travers une connivence souriante. Regardez l'œuvre de Molière. Et pour l'œuvre de La Fontaine, c'est la même chose. Il est à la fois héritier des humanistes et en cela imitateur de l'Antiquité, c'est un relais, mais il est aussi annonciateur de l'esprit des Lumières, doué d'un esprit critique, et en cela, il est dans l'écart. Ce mélange de relais et d'écart commande une œuvre qui est évidemment tendue. Tendu entre des polarités contraires et une œuvre dans laquelle ces contradictions sont résolus d'abord par un esprit de synthèse, c'est-à-dire une capacité de tempérer les influences. Dans Adonis, il y a 1000 lectures. Il le dit, j'avais fait un cahier de tout ce qui avait été vu par moi dans les œuvres de mes prédécesseurs comme des réussites, et j'ai utilisé tout ce cahier dans le poème Adonis. Ce sont 10 ans, en quelque sorte, de collecte. Les premiers vers d'Adonis sont quasiment imités de l'ouverture des Amours de Tristan l'Hermite, qui a été un très grand poète antérieur à La Fontaine, donc un esprit de synthèse. Et en même temps, pour que cette synthèse réussisse et qu'elle ne soit pas, je dirais, une moyenne un peu plate, il y a un système qui est assez propre à La Fontaine, qui est un système de tuilage et de décalage. C'est-à-dire que, pour synthétiser les éléments, il prend des sujets d'un niveau et il les traite dans un style d'un autre niveau. Par exemple, il va prendre un sujet élevé et il le traitera dans un registre moyen. Nous avons très peu de nos jours ce sentiment des registres.
Qui était très fort
à cette époque. Par exemple, dans une copie d'étudiants actuellement, pour désigner le père de Marcel Proust, son paternel. Vous voyez, c'est une chose qui signifie que le mélange des registres, quand on le pratique, on ne s'en rend pas compte. Au XVIIe siècle, si. On savait ce qu'était le style élevé. Le jour où Racine a inclus dans le songe d'Athalie le mot chien, tout le monde a frémi, les dames se sont évanouies. Parce qu'il y avait une sorte de scandale à mettre un tel mot, un tel animal qui montre des choses que personne ne devrait montrer, dans une tragédie. Il y a des effets de ce genre. Et La Fontaine pratique ce système-là, il pratique le décalage, et ça a un nom que l'on va trouver en partie dans Adonis, mais surtout dans Psyché, c'est le badinage.
La Fontaine entre dans l'entourage de Fouquet grâce à son ami Paul Pélisson, compagnon de la Table Ronde, le futur auteur des fables et le poète lauréat du surintendant des finances de Louis XIV. Il commence à écrire le Songe de Vaux, œuvre inachevée, pour célébrer la propriété de Fouquet, mais aussi ses qualités humaines et intellectuelles. Lorsque le roi fait arrêter Fouquet et le condamne à la prison à vie, La Fontaine doit se trouver d'autres protecteurs et s'inventer une autre carrière que celle de poète royal, qui aurait pu être la sienne grâce à Fouquet. Boris Donnet.
La Fontaine a sans doute pensé, quand il est entré dans le cercle du surintendant Fouquet, qu'il ferait une carrière poétique comme on pouvait en faire à la Renaissance en Italie, ou comme on en faisait encore en France dans les premières décennies du siècle, c'est-à-dire en étant réellement le poète attitré d'un personnage très puissant, d'un homme de culture, mais qui détient aussi une puissance, en l'occurrence une puissance financière pour Fouquet.
Parce qu'ils avaient une pension, ce qu'on appelle une pension poétique. Ils recevaient une pension de Fouquet, et la pension poétique, ce sont les vers que La Fontaine devait écrire pour Fouquet.
Oui, on cherche à habiller élégamment le rapport de suggestion économique du poète, et donc on joue à inverser les rôles. C'est La Fontaine qui verse sous forme de vers une pension au surintendant, et ça permet de voiler un petit peu les espèces sonnantes et trébuchantes qui circulent dans l'autre sens et qui sont sans doute l'essentiel de l'arrangement entre deux.
La fête de Vaux-le-Vicomte a lieu le 17 août 1661. C'est un choc esthétique pour La Fontaine. Il raconte à son ami Maucroix à quel point c'était beau. Et quelques semaines plus tard, le 5 septembre 1661, Fouquet est arrêté par D'Artagnan. Comment se passe l'arrestation et pourquoi Louis XIV a voulu faire arrêter Fouquet ?
La fête de Vaux, elle éblouit particulièrement La Fontaine parce que probablement La Fontaine, jusqu'alors, ne s'est pas tellement mêlée au milieu de la cour, au milieu de la haute aristocratie, au milieu mondain. C'est une fête particulièrement brillante et en plus, il a eu rarement probablement l'occasion de voir des spectacles comparables. Il découvre Vaux, il doit rêver de Vaux, imaginer Vaux pour écrire le songe depuis des mois, des années déjà, et tout d'un coup, il voit Vaux dans un état d'achèvement, proche de son achèvement. Et puis la fête elle-même est d'une magnificence extraordinaire. C'est une fête que Fouquet donne pour recevoir Louis XIV. Il a mis de son côté tous les moyens possibles. Et on a des spectacles à machine, des décorations éphémères dans le parc pour la représentation des fâcheux de Molière. Donc c'est évidemment un choc esthétique. Et on comprend aussi qu'avoir reçu si somptueusement le roi tous ceux qui appartiennent au parti de Fouquet pensent que sans doute le moment est proche où ses services seront récompensés à leur juste mérite par Louis XIV qui fera de Fouquet son ministre. Et le moment où Louis XIV, au contraire, choisit de faire arrêter Fouquet et de diligenter contre lui un procès pour pécula, c'est-à-dire pour détournement d'argent public d'abord et ensuite pour crime de lèse-majesté, c'est-à-dire crime de haute trahison contre l'État, contre la personne du roi, évidemment, c'est quelque chose qui retentit comme un coup de tonnerre parmi les partisans de Fouquet.
Autour de Fouquet se trouvent les artistes les plus brillants de leur génération. Lebrun, Lenôtre, Levaux rejoignent la cour de Louis XIV après la disgrâce du surintendant des finances et travaillent à la Beauté de Versailles. De son côté, La Fontaine écrit deux textes pour la défense de son ancien protecteur et n'approche pas le roi de trop près, par fidélité ou parce qu'il avait trop baigné dans la petite académie Fouquet pour tourner sa veste aussi vite. Jean de Guardia.
On a assez peu de documents montrant un soutien actif de La Fontaine à Fouquet après sa chute. On sait qu'il a fait un placet, des poèmes pro-Fouquet, juste après son emprisonnement, mais enfin, 3 ans après, c'est fini. Hein, donc, faut pas non plus surestimer une sorte de fidélité indéfectible. À ce moment-là, La Fontaine est en train de partir dans sa carrière, dans son succès, et la fidélité à Fouquet va, à mon avis, s'achever assez tôt.
Jean de Guardia, les premiers contes sont publiés à partir de 1663, 1664. Oui. Le premier recueil, c'est 1665. Mmh. Quels sont les modèles de ces contes érotiques de La Fontaine?
Alors, les modèles, c'est Bocace d'abord, et c'est La Reine de Navarre. C'est les deux principaux modèles, le Décaméron et l'Heptaméron. Énorme recueil de contes, matière inépuisable dans laquelle ils puisent, comme puisent tous les auteurs de contes, de nouvelles de son temps. C'est ce qu'on appelait à l'époque un fond avec un S, c'est-à-dire la source des histoires, la grande source des histoires. Et donc ça n'a rien d'original de puiser dans ces deux sources. Hein, Molière le fait énormément aussi. C'est un immense réservoir à histoire, et il va puiser là-dedans. Ce qui le caractérise, lui, c'est qu'il va décalquer certaines histoires de très très près, tandis que Molière, par exemple, s'en écarte évidemment beaucoup.
Ce sont des contes plus ou moins longs, plus ou moins érotiques. Oui. Qui est visé? Quel est le fond comique? De quoi se moque-t-il à La Fontaine?
Le fond comique...
Des maris cocus, des...
Alors oui, on a un fond traditionnel de maris cocus, de femmes coquines, et même de trio femme-mari-amant, dans lequel l'amant est un moine, hein, bien souvent, comme dans la farce française, avec de multiples variations là-dessus, et toutes les situations de triangle amoureux, de carré amoureux qu'on puisse imaginer, hein, ce sont des contes érotiques au sens technique, hein, c'est-à-dire le thème, la matière est érotique de manière assez continue dans tous les contes. Ce sont des contes satiriques pour une part, mais pas tous. Hein, et lorsqu'il y a satire, c'est satire évidemment du clergé dans une tradition tout à fait habituelle et continue. Hein, et puis ce sont aussi des contes misogynes, hein, c'est-à-dire que la femme sous toutes ses formes est adorée mais moquée, et tous ses défauts sont mis en valeur les uns après les autres.
Quels sont ses défauts alors?
La femme est évidemment volage, infidèle, sotte, sauf quand il s'agit d'amour, où elle devient extrêmement rusée. Et la femme n'a évidemment pas de parole. Et toute la topique misogyne du XVIIe siècle se lit de manière ouverte dans les contes de La Fontaine, le tout avec une immense tendresse aussi. Et je pense pas qu'une lectrice ne puisse jamais s'en offusquer, parce que l'ensemble est fait avec beaucoup de délicatesse et de tendresse aussi. Et puis la dimension topique, la dimension cliché est affichée, donc tout ça est aussi avec beaucoup de distance.
Si on considère, Jean de Guardia, les contes grivois de la Renaissance, dont s'inspire La Fontaine, et la littérature érotique du XVIIIe siècle, La Fontaine se situe où sur l'échelle de l'audace?
Très haut sur l'échelle de l'audace. Hein.
Ah, oui.
Ah oui, très très haut. Vraiment très haut. Parce que si on lit les contes en entier, on est très 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 frappé. Hein. C'est-à-dire que on a tendance à lire toujours les mêmes, qui sont des contes légèrement érotiques, mais il y en a dans les contes qui relèvent de la pornographie pure et simple, et ça se situe très haut. Alors évidemment, si vous prenez le Marquis de Sade, on n'est pas là, hein, mais vis-à-vis, je sais pas, de la Claude Crébillon, hein, on est plus haut. Hein, à mon goût, à mon avis, on est dans, c'est beaucoup plus salé.
Certaines abbesses, un certain mal avait. Pâle couleur, nommé parmi les filles. Mal dangereux, et qui, des plus gentilles, détruit l'éclat, fait languir les attraits. Notre malade avait la face blême, tout justement comme un saint de carême, bonne d'ailleurs, et jante à cela près. La faculté, sur ce point consultée, après avoir la chose examinée, dit que bientôt madame tomberait en fièvre lente, et puis qu'elle mourrait. Force sera que cette humeur la mange. À moins que de... Là, moins est bien étrange. À moins, enfin, qu'elle n'ait à souhait compagnie d'homme. Hippocrate ne fait choix de ses mots, et tant tourné ne sait. Jésus, reprit toute scandalisée madame Abbesse, et que dites-vous là? Fi, nous disons, repartit à cela la faculté, que pour chose assurée, vous en mourrez, à moins d'un bon galant. Bon, le faut-il? C'est un point important. Autre que bon n'est ici suffisant. Et si bon n'est, deux en prendraient madame. Ce fut bien pis. Non pas que dans son âme ce bon ne fût par elle souhaité, mais le moyen que sa communauté lui vit sans peine approuver telle chose. Honte souvent et de dommages cause.
Ce n'est pas une œuvre qui est faite pour être salace, hein. C'est une œuvre qui est faite pour être, je dirais, un jeu sur l'art de dire sans dire, hein. L'art de gazer les choses. J'ai un joli texte, je ne sais pas si je peux vous le lire à ce propos, dans les contes, qui dit un peu ces choses-là.
C'est le tableau ?
Dans un conte, non, qui s'appelle Les Lunettes.
Ah, Les Lunettes.
Et qui est intéressant de ce point de vue. C'est un passage où on voit un jeune homme, un adolescent qui s'est déguisé en nonne et qui est dans un couvent et qui a engrossé une nonne, et on fait une visite pour savoir s'il n'y aurait pas un homme caché parmi les femmes. Et donc, il a à grand renfort de ligature, soustrait aux yeux de la prieure, disons, quelque chose qu'il ne faut pas montrer quand on est un homme et qu'on veut faire croire qu'on est une femme. Et voici comment La Fontaine présente, il dit, nécessité, mère de stratagème, lui fit, eh bien, lui fit en ce moment lier... Et quoi? Bah, foin, je suis court moi-même, ou prendre un mot qui dise honnêtement ce que lia le père de l'enfant. Comment trouver un détour suffisant pour cet endroit? Le détour, il va durer 25 vers. C'est-à-dire que pendant 25 vers, je vous dis pas comment il finit par exprimer la chose. Mais il l'exprime. Et il l'exprime d'une manière qui est une manière détournée. Eh bien, les contes, c'est cet art du décalage et du détournement qui consiste à s'amuser à dire sans dire la chose.
En 1675, le lieutenant de police Larrény saisit les comptes.
Oui.
Parce qu'en 1674, il y a encore une autre salve de comptes qui arrive en librairie. Mais il a fallu attendre longtemps quand même.
Oui.
Alors, 10 ans
d'abord,
pour que ce soit saisi.
La Fontaine lui-même ne cesse de dire qu'il va arrêter. Et il n'arrive pas à arrêter, hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de procrastination érotique où il dit j'arrête de faire des contes, maintenant je suis un auteur sérieux, je fais des fables, j'instruis mes lecteurs. Il n'y arrive jamais. Il repousse le moment où il arrêtera de faire des contes, et en fait il fait des contes absolument toute sa vie.
Le fin du fin, le mot définitif chez La Fontaine, c'est la recherche d'un ton. C'est-à-dire qu'il y a pour moi des auteurs à style et des auteurs à ton, et je pense que vous voyez, par exemple, Rabelais, il a un style, on peut l'imiter. Montaigne, il a un ton, c'est très difficile de le pasticher. Racine, il a un style, on peut faire du Racine, c'est assez facile. On peut faire du Racine amusant, même. Ça, c'est méchant. Mais La Fontaine, c'est beaucoup plus difficile de le pasticher.
Et pourquoi? Alors, c'est quoi le
Alors,
ton?
Alors, le ton, qu'est-ce que c'est? C'est une certaine prise, c'est peut-être ce que Roland Barthes appelait l'écriture. C'est, si vous voulez, le choix d'une coloration qui pénètre en nous, lecteurs, non pas par l'intellect, mais par le sensible, et qui est en résonance avec notre corps. C'est un certain niveau de musique. C'est-à-dire qu'on reconnaît, on se dit, tiens, c'est du La Fontaine, je saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est ça. Vous savez, c'est un peu comme pour moi, qui ne connais pas la musique, mais qui l'écoute beaucoup, je me dis, tiens, ça c'est du Schubert, je suis bien incapable de savoir pourquoi, puisque je ne peux pas lire la portée musicale, mais je sens que c'est ça, je le sens. Et vous voyez ce verbe sentir. Alors il y a le même phénomène, je crois, et que l'on trouve aussi chez Molière, et les acteurs vous le diront, et comédiens, quand on dit du Racine, c'est la perfection d'un style. quand on vit du Molière dans son corps, c'est la qualité d'un ton. Alors eux, ils disent c'est parce que Molière était de la balle, il était de la maison, donc les vers sont sans doute stylistiquement moins beaux, mais ils sont terriblement efficaces. On ne se fatigue pas à dire du Molière, il vous passe directement dans la moelle et on est dedans.
Qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Il voit des hommes, mais qui finalement agissent d'une manière très primaire, en suivant un certain nombre d'instincts élémentaires. Il voit des animaux, finalement. L'artifice même de la fable, il est pour lui une manière peut-être d'exprimer cette vision désillusionnée qu'il a des hommes. Et sans doute, c'est un choc pour lui, parce qu'il découvre cela après les années Fouquet. Il a baigné dans une culture d'un raffinement extraordinaire, où l'idée de sociabilité,
d'amitié,
oui, mais même simplement l'honnêteté, on a l'impression que la civilisation est parvenue à un point de raffinement extrême, et puis tout d'un coup, on découvre que derrière ce vernis de raffinement, il y a des passions brutales, bestiales même, et on peut dire que l'écriture même des fables, elle joue sur ce contraste.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage.
Hé, hey, bonjour, monsieur du Corbeau. Ah, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Ah, à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Oh, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau. Honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Et les fables, le premier recueil est vraiment un recueil destiné aux enfants, même si tout le monde sait que c'est à travers les enfants, les adultes qui doivent le lire. Il y a un souci de l'esprit et de la formation, de l'éducation.
Patrick Dandré.
Et des valeurs qui sont des valeurs qui parfois nous surprennent. Si on regarde la première fable, La cigale et la fourmi, ce n'est pas une fable morale au sens où nous entendons, nous, l'éthique. C'est une fable de mœurs, c'est-à-dire une fable qui enseigne aux enfants ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire la prudence. Quand on chante tout l'été, il faut savoir que l'hiver viendra. Or, les enfants ne savent pas ça parce que le temps est une chose qu'ils n'ont pas eux-mêmes acquise. Et pour l'acquérir, il faut qu'on leur enseigne que le monde n'est pas aisé, que les gens sont méchants, les bêtes, mais les gens aussi, et que par conséquent, ça va mal se passer. Et cette morale de la prudence, de l'anticipation de ce qui va venir, on la trouve dans la seconde fable, « Corbeau et le renard ». Le renard qui fait la morale, c'est pas un bon moraliste, vous savez, c'est quand même un voleur. Mais c'est un voleur qui a eu raison parce qu'il a prévu que si l'autre ouvrait le bec, il lâcherait sa proie. Et c'est ainsi que les fables sont, je dirais, à ne pas mettre entre les mains de tous les enfants, mais au moins des enfants qui ont besoin d'apprendre que la société est ce qu'elle est et que pour s'en sortir, pour se débattre, pour survivre, il faut avoir une morale pratique.
Les plus prudentes ne sont pas les plus sympathiques.
C'est cela. Ce sont les gens qui réussiront à survivre dans cette jungle qu'est le monde animal, mais aussi qu'est le monde humain.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage.
Parce que c'est ce qui est beau aussi dans les fables, c'est la création de ces petits personnages. Hein,
Frédéric Boyer.
À la fois, tout à la fois humains et animaux. Ces petits personnages sont traversés par leurs contradictions et leurs contrariétés. Même s'ils sont victimes, ils sont jamais tout à fait victimes. Et même s'ils sont tout puissants, ils sont jamais tout à fait tout puissants. Ce sont des gens à la fois très faibles et très forts, à la fois très bons et très lâches. Et c'est ce jeu entre tous ces petits personnages qui donnent à ces fables chez La Fontaine une saveur qui est toujours là, en fait, qui est toujours forte. Moi, ce qui me frappe, moi, en tant que lecteur, aujourd'hui, en tout cas, des fables de La Fontaine, ce que je retiens, c'est une sorte d'art ironique, mais extrêmement puissant, de la noirceur chez lui. Voilà. C'est-à-dire que quand même, la plupart des fables, il y en a plus légères que d'autres, mais quand même la plupart des fables, l'écrasante majorité de ces fables, pointent quelque chose de la noirceur de l'existence humaine, des sentiments, des relations. C'est comme s'il essayait d'apprivoiser cette noirceur à travers la langue et à travers un jeu qui est le jeu de la reprise, effectivement, de textes anciens, de figures anciennes, pour essayer de toucher quelque chose aujourd'hui, en tout cas à son époque. Mais moi, je pense que c'est ce qui nous touche toujours beaucoup. C'est cet art de la noirceur chez lui.
Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange. Sans autre forme de procès.
Et dans le ton de La Fontaine, la diversité, elle se traduit par la rapidité, par...
Écoutez, la diversité de son ton, on pourrait la trouver dans mille choses. Je vais prendre un seul exemple, c'est le génie du vers irrégulier. Vous prenez la première fable, la cigale ayant chanté tout l'été. Vous avez l'un des vers les plus courts qu'on ait jamais écrit, un vers en trois syllabes qui vous fait passer les trois mois d'un été. C'est juillet, août et septembre, tout l'été. Ça va vite. Se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Et croyez-moi, la bise fut venue, pourtant c'est très bref, c'est quelques jours, mais ça dure. Et là, La Fontaine a perçu, à travers l'irrégularité du vers, une chose profonde, qui est que s'il y a un temps des horloges qui fait que trois mois, normalement, ça prend plus de trois syllabes, et que quand la bise fut venue, c'est un peu long pour dire quelques instants, en réalité, il y a un autre temps qui est le temps sensible, le temps physique, le temps du corps, celui dans lequel trois mois pendant lesquels on chante, ça passe très vite, mais quand on a froid et qu'on a faim, le moment où la bise est venue, c'est très long. Et voilà comment vous avez à la fois un décalage entre ce qui devrait être et ce qui est, parce que les vers sont en état de d'inversion, finalement, entre leur longueur et leur signification, et finalement, une capacité de raconter sans délayer par l'art de l'ellipse.
Au chantier, j'en suis fort aise, eh bien, dansez maintenant.
Antoine Bisséret, les fables ont eu beaucoup de succès immédiatement.
Oui.
Par qui elles étaient lues? Elles étaient lues par les enfants, elles étaient lues dans les salons mondains, elles étaient lues...
Oui, alors par les enfants, pour les premiers recueils, on ne sait pas si elles ont eu un succès scolaire immédiat comme elles l'auront dès la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Là, c'est sûr qu'elles auront un public scolaire. On fait des éditions des Fables de La Fontaine annotées pour enfants. Mais à l'époque, il n'est pas dit qu'elles aient été lues d'emblée par les enfants. Le public était, oui, davantage mondain. Elles étaient lues dans les cercles mondains, dans les salons. Elles ont du succès, par exemple, auprès de Madame de Sévigné, qui en recommande la lecture à sa fille, mais qui, elle, n'était plus une enfant.
Et qui était amie avec La Fontaine.
Et qui était, elle, très amie avec La Fontaine.
Qui se voyait chez Madame de La Sablière.
Oui, elle se voyait chez Madame de La Sablière, probablement d'ailleurs dans d'autres cercles également. Et c'est d'ailleurs Madame de Sévigné qui a lancé La Fontaine, puisque chez Fouquet, c'est elle qui a la première remarqué sa capacité à faire de bons vers mondains. Et lui, d'ailleurs, a été très étonné de voir qu'on pouvait lui reconnaître des mérites à faire ce genre de vers, alors qu'il venait de produire une comédie, Le Nuque, en 1654, avec laquelle il pensait qu'il aurait du succès et qu'il n'en a eu aucun. Et puis tout d'un coup, le voilà reconnu, vers la fin des années 1650, dans des cercles mondains où il ne pensait pas briller particulièrement. Bien sûr, il faisait des vers de circonstances comme ça depuis plusieurs années, par exemple à l'Académie de la Table Ronde, mais il n'avait jamais pensé qu'il pourrait réussir dans cette voie. Et c'est Madame de Sévigné, la première, qui a salué le travail de La Fontaine et qui l'a incité à poursuivre dans cette voie.
Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches?
Le discours, au sens discours littéraire ici, devient une forme de résistance et de pouvoir aussi. Sa grande affaire à lui, effectivement. Avec ses propres contradictions, effectivement, puisque c'est quelqu'un qui va sans cesse... essayer de trouver des voies des voix différentes, diverses, mais la diversité, c'est aussi un grand héritage de ce monde-là. Alors, ça sera peut-être un peu moins vrai après.
La diversité, c'est la devise de La Fontaine.
Ben oui, bien sûr. Mais il hérite ça de toute pensée baroque, si on peut aller vite, comme ça, du siècle qui l'a précédé. Il est pris dans ce temps-là, effectivement. La diversité, la vitesse, la gaieté, il les met au service, effectivement, d'une certaine résistance au monde et à l'existence, mais aussi c'est au monde politique, effectivement, mais aussi à l'existence humaine intime. Hein, parce que je crois que, évidemment, on peut en parler beaucoup de la vie de La Fontaine aux prises du pouvoir politique, tout ça, mais il faut aussi parler, parce que dans les fables, il y a aussi quelque chose de... Il y a une intimité, beaucoup de fables parlent de quelque chose...
De la vie privée.
De la vie privée, de l'intimité d'un sujet, et avec aussi la diversité des sentiments, leurs contradictions. La contradiction, c'est un grand mot du XVIIe. Au XVIIe, on ne disait pas contradiction, on disait contrariété, les contrariétés pascaliennes. Eh bien, il y a les contrariétés de La Fontaine, c'est-à-dire les contrariétés au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire on est contrarié, mais aussi au sens de contradiction, c'est-à-dire où il faut tenir plusieurs contrariétés dans la vie, sinon on risque effectivement d'être écrasé ou de ne pas comprendre ce qui se passe.
Une chèvre, un mouton avec un cochon gras montés sur même char s'en allaient à la foire. Leur divertissement ne les y portait pas, on s'en allait les vendre, ce que dit l'histoire. Le charton n'avait pas dessein de les mener voir Tabarin. Qu'est-ce que j'aime là-dedans? J'aime la diversité sensible qui fait presque, ça fait presque dresser le poil. La diversité sensible, descriptive, suggestive, c'est jamais descriptif, suggestive de ce vers. Une chèvre, un mouton avec un cochon gras. Vous avez d'abord une verticalité, la chèvre, vous avez la rotondité, une chèvre, un mouton, et puis cette profondeur avec un cochon gras. Montés sur même char, là ils sont dans la raideur, s'en allaient à la foire. C'est caracolant comme une toile de Chagall. On dirait un défilé de Chagall. Ça me rappelle à la fin de la noce de Madame Bovary, ces carrioles qui s'en vont sur les routes. Les cochers sont ivres et on voit de temps en temps une main qui se passe par la fenêtre pour prendre les rênes. Vous voyez, il y a là une diversité de coloration, une capacité de vous inclure immédiatement dans une scène qui bouge et qui est une puissance, et des saveurs qui sont merveilleuses. Pour moi, le style, ça réagit directement sur le corps. Leur divertissement ne les y portait pas. Vous voyez comme le rubato qui est fait ici. De nos jours, nous dirions, ce n'est pas leur divertissement qui les y portait. Alors tout de suite, ce serait négatif. Non, leur divertissement, ah bon, ça va être joyeux. Ne les y portait pas, on s'en allait les vendre, ce que dit l'histoire. Et là, ça retombe, vous voyez, une espèce de déception. Ils sont joyeux, ils partent, mais non, ils sont menés. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, le cochon, il le sait, on va le faire mourir. Et que sera cette fable? Je termine sur elle. Ce sera une méditation sur la mort, entre stoïcisme et épicurisme, parce que le cochon sait bien que lui, si on l'amène à la foire, c'est pas pour son lait comme la chèvre et c'est pas pour sa laine comme le mouton. C'est une méditation sur la mort, mais en termes de charcuterie. Et j'aime beaucoup ça, vous voyez, ce mélange. C'est ça que j'appelle les décalages. Parce qu'on peut faire le grand homme, vous voyez, s'interroger, mais sur les fins dernières. Mais c'est bien de le faire à ce niveau-là. Ça rappelle ce que disait Montaigne, qui, à la fin des essais, fatigué des élucubrations, des démoneries de Socrate, qu'il a pourtant tellement aimé, dit « Je préfère, dans le fond, Ésope. Ésope, ce grand homme qui, voyant un jour son maître qui marchait en pissant, dit « Et quoi donc nous faudra-t-il chier en courant ?» Vous voyez, il y a un rapport au corps ici. Ouais. Eh bien, quand vous me posez la question, quel rapport sensuel avec le corps, je le trouve là, vous voyez, dans cette façon de jouer sur le grand et le petit, hein, Magnitudo Parvi.
Même beauté, tant soit exquise, rassasie et saoule à la fin. Il me faut d'un et d'autre pain. Diversité, c'est ma devise. Cette maîtresse intentée bise rit à mes yeux. Pourquoi cela? C'est qu'elle est neuve, et celle-là qui depuis longtemps m'est acquise, blanche qu'elle est, en nulle guise ne me cause d'émotion. Son cœur dit oui, le mien dit non. D'où vient? En voici la raison. Diversité, c'est ma devise. Je l'ai déjà dit d'autre façon, car il est bon que l'on déguise, suivant la loi de ce dicton, diversité, c'est ma devise. Ce fut celle aussi d'un mari de qui la femme était fort belle. Il se trouva bientôt guéri de l'amour qu'il avait pour elle.
parce qu'il y a un enthousiasme chez La Fontaine, qui est l'enthousiasme du, d'ailleurs du poète, du fabuliste aussi, hein, qui lui fait aussi traverser différents mondes, différents genres, différentes...
Il essaye tout.
Volupté, volupté qui fut jadis maîtresse du plus bel esprit de la Grèce. Ne me dédaigne pas, viens t'en loger chez moi. Tu ne seras pas sans emploi. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Viens donc, et de ce bien, ô douce volupté, veux-tu savoir au vrai la mesure certaine? Il m'en faut tout au moins un siècle bien compté, car 30 ans, ce n'est pas la peine.
Patrick Dandré, Les Amours de Psyché se terminent par un hymne à la volupté. Et dans cet hymne à la volupté, il y a quelques vers très célèbres, très beaux, et il est question de mélancolie. Et La Fontaine écrit « Il n'est rien qui ne me soit souverain bien jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique ». Est-ce qu'il parle de lui ?
Oui, ouais. Il parle de lui en tant qu'écrivain. Ne croyez surtout pas que c'est une confidence personnelle. C'en est peut-être une. On a parlé de son inquiétude, son incapacité à se tenir à une seule chose. Il a parlé de sa diversité, oui. Et cette mélancolie, elle est l'équilibre parce que chez La Fontaine, tout est contradictoire, tout est tension et tempérament des contraires. Elle est le quelque chose qui va donner à cette gaieté une légère teinte de nostalgie. C'est-à-dire que vous y trouvez cet élément qui est bien caractéristique d'un poète qui sent qu'il est le dernier d'une immense cohorte et puis qu'après lui, il y en aura beaucoup moins de la poésie. Et ça, je ne l'invente pas. C'est pas parce que je sais que le XVIIIe siècle sera très peu poétique et que le XVIe et le XVIIe l'ont été beaucoup. C'est parce qu'il l'a écrit lui-même. La grande poésie n'a plus de place. On ne veut plus que des badinages mondains. Et c'est ce qui va se passer. La poésie va mourir de son implantation dans le monde des salons et dans le monde de l'élégance. Et La Fontaine sent peut-être cela. Il y a aussi cette, comment dirais-je, ce sentiment d'être un fin de race, vous voyez, d'être le dernier d'une longue lignée dans laquelle on s'inscrit en ayant le sentiment que peut-être il n'y aura personne pour prendre le témoin et pour faire quelque chose de ce que l'on a hérité. Alors c'est ça aussi, cette mélancolie, vous voyez. Et puis je dirais qu'à la fin de ce poème, enfin de ce roman-poème, de ce conte de Psyché, alors qu'il va y avoir une description, une évocation absolument somptueuse du coucher du soleil, ces vers consacrés à la volupté, c'est quand même quelque chose la volupté, c'est un très joli nom pour dire le plaisir, parce que c'est beaucoup plus compliqué que le plaisir au sens immédiat et brutal du terme. Cet hymne à la volupté devait être teinté de l'idée que rien n'y échappe, y compris la mélancolie. Alors quand on détache la mélancolie, on oublie que c'est pour nous dire que paradoxalement, dans la volupté, il y a aussi une part de mélancolie.
C'est la volupté qui englobe tout et pas la mélancolie.
Non, pas du tout. La mélancolie est happée dans ce mouvement général dont on se dit « Ah bon, alors réjouissons-nous » Non, parce qu'il y a aussi ce phénomène intermédiaire qui est que dans la réjouissance, il y a son contraire. Et le contraire étant toute chose.
Que nos plaisirs passés augmentent nos supplices. Qu'il est dur d'éprouver, après tant de délices, les cruautés du sort. Fallait-il être heureuse avant qu'être coupable? Et si de me haïr, amour, tu fus capable, pourquoi m'aimer d'abord? Que ne punissais-tu mon crime par avance? Il est bien temps d'ôter à mes yeux ta présence, quand tu luis dans mon cœur. Encore si j'ignorais la moitié de tes charmes. Mais je les ai tous vus, j'ai vu toutes les armes qui te rendent vainqueur. J'ai vu la beauté même et les grâces dormantes. Un doux ressouvenir de 100 choses charmantes me suit dans les déserts. L'image de ces biens rend mes maux 100 fois pires. Ma mémoire me dit « Quoi, Psyché, tu respires après ce que tu perds ? Cependant, il faut vivre. Amour m'a fait défense d'attenter sur des jours qu'il tient en sa puissance, tout malheureux qu'ils sont. Le cruel veut, hélas, que mes mains soient captives. Je n'ose me soustraire aux peines excessives que mes remords me font. C'est ainsi qu'en un bois, Psyché contait aux arbres sa douleur, dont l'excès faisait fendre les marbres, habitants de ces lieux. Rochers, qui l'écoutiez avec quelque tendresse, souvenez-vous des pleurs qu'au fort de sa tristesse ont versé ses beaux yeux.
Patrick d'André lorsque Psyché perd l'amour. Elle est très malheureuse.
Oui.
Et elle se plaint, elle adresse une plainte au rocher. Et là, c'est un chagrin d'amour. C'est une peine d'amour. Mais La Fontaine est rarement le poète du chagrin violent.
Oui, il est quand même le poète de la perte. C'est-à-dire que dans les fables, de temps à autre, l'aigle à qui on a détruit ses œufs, sa chair nichée, il y a cette capacité de pleurs. On le trouve dans Adonis, lorsque Vénus, ayant perdu Adonis, se lamente d'être une déesse parce que si elle était mortelle, elle pourrait le suivre aux enfers. C'est un joli paradoxe. C'est ce qu'on appelait un concetto, c'est-à-dire une idée bien trouvée et qui fait valoir un poème. Il y a donc chez La Fontaine l'art de trouver le ton adapté à toutes les situations, y compris la situation de déploration. Alors, ce n'est pas véritablement le sanglot, ce n'est pas la tirade racinienne, par exemple, sur l'imprécation, si vous voulez dire ça. Je ne crois pas qu'il soit tout à fait le poète de l'imprécation, mais il est capable de se hisser jusqu'à la déploration.
En 1683, La Fontaine se porte candidat à l'Académie française au fauteuil de Colbert, l'ennemi de Fouquet. Louis XIV pose comme condition à l'élection de La Fontaine celle de l'autre poète de son règne, Boileau. L'année d'après, tout rentre dans l'ordre, La Fontaine et Boileau sont élus. Cette candidature est une des étrangetés du poète. Flatteur avec le pouvoir et contempteur de la société de son temps, La Fontaine papillonne. De la même façon, il fréquente les cercles libertins, mais aussi les jésuites et Port-Royal. L'auteur des contes érotiques est dans le même temps un admirateur et un traducteur de Saint-Augustin. Frédéric Boyer.
La Fontaine était l'ami du premier traducteur des Confessions en français, c'est Arnaud d'Andilly de Port-Royal. Arnaud d'Andilly donc est le premier à avoir traduit intégralement les Confessions de Saint-Augustin en français vulgaire, enfin en français vernaculaire. Voilà.
Et La Fontaine a participé à cette traduction.
Exactement, La Fontaine a participé au travail de traduction, on ne sait pas exactement quoi, mais on sait si qu'il a participé concrètement à la traduction en vers de la Cité de Dieu, et puis il a participé à cette célèbre anthologie de poésie chrétienne. Il a fait des réécritures de psaumes, du Dies Irae et d'autres textes. Et donc il était, on le sait, très proche effectivement à la fois de cette pensée d'Arnaud d'Andilly et puis de Port-Royal. Il était donc forcément un lecteur de Saint-Augustin. Et donc alors, où on retrouve Saint-Augustin dans les fables, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas, on ne le retrouve pas de façon érudite, je ne crois pas. Donc on ne peut le retrouver que sur le sentiment d'une certaine lecture d'Augustin à l'époque. Il faut être prudent, parce que donc d'un certain augustinisme à l'époque, effectivement, bon, qui se retrouve d'abord, je vais peut-être un peu surprendre, mais moi je retrouve, mais ça c'est très personnel, mais je peux retrouver Augustin dans les fables, dans l'ironie de La Fontaine. Voilà. C'est-à-dire cette ironie, cette distance que met La Fontaine dans le tableau des mœurs, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Augustin, qui va frapper les contemporains d'Augustin lors de la lecture des Confessions.
La Fontaine a toujours été un chrétien.
Boris Donnet.
Simplement, il l'a été avec plus ou moins de rigueur, mais il n'est pas très étonnant qu'au soir de sa vie, encouragé aussi par sa dernière protectrice, Madame de la Sablière, qui était elle-même une dévote, en correspondance avec l'abbé de Rancé, le fondateur de la Trappe. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit revenu peut-être à des pratiques religieuses plus rigoureuses et même dans la toute fin de sa vie assez spectaculaire apparemment, avec des mortifications, un goût de la pénitence qui a surpris même ses amis. On nous dit même, je crois, dans une lettre qui témoigne de ces dernières semaines, que son seul désir serait été d'avoir assez de force pour se faire promener à travers les rues de Paris et crier qu'il désavouait publiquement ses recueils de contes. Ça nous fait un peu sourire, évidemment, mais en même temps, on voit quelqu'un qui a eu sans doute des convictions religieuses profondément ancrées et qui, évidemment, sachant la mort proche, sachant donc venu le moment de comparaître devant Dieu, se dit qu'il est temps d'amender sa conduite.
Il accepte quand même, La Fontaine, de renier ses comptes à la fin de sa vie, parce que son confesseur le lui demande, mais il le fait, il les répudie publiquement à l'Académie française. Et ça, c'est un gage donné à la cour aussi, ou seulement à la religion?
C'est très, très, très difficile à dire. C'est encore un épisode assez, assez mystérieux.
Marc Escola.
Je crois que Giraudoux, dans les cinq conférences qu'il a prononcées sur La Fontaine, les cinq tentations de La Fontaine... dit ou laisse entendre que Dieu et le diable se sont disputés La Fontaine pendant toute leur vie, que logiquement le diable aurait dû gagner, mais que même Dieu n'a pas réussi à imaginer La Fontaine en enfer. Et je trouve que c'est une très belle formule. Alors, on ne peut pas tout à fait exclure une piété sincère à la fin de sa vie et une terreur de la mort et de l'au-delà.
À Monsieur de Maucroix, chanoine de Reims.
Tu te trompes assurément, mon cher ami. S'il est bien vrai, comme Monsieur de Soissons me l'a dit, que tu me crois plus malade d'esprit que de corps. Il me l'a dit pour tâcher de m'inspirer du courage, mais ce n'est pas de quoi je manque. Je t'assure que le meilleur de tes amis n'a plus à compter sur 15 jours de vie. Ah, Maucroix! Mon cher ami, te souviens-tu de la chanson que j'écrivis pour toi ? Voilà 2 mois que je ne sors point, si ce n'est pour aller un peu à l'académie, afin que cela m'amuse. Hier, comme j'en revenais, il me prit au milieu de la rue du Chantre une si grande faiblesse que je crus véritablement mourir. Oh, mon cher, mourir n'est rien, mais songes-tu que je vais comparaître devant Dieu? Tu sais comme j'ai vécu. Avant que tu reçoives ce billet, les portes de l'éternité seront peut-être ouvertes pour moi.
10 février 1695.
Frédéric Boyer, comment vous l'imaginez, l'homme La Fontaine?
D'abord, je pense que c'est quelqu'un qui a dû être très très amical, puisque il a eu des grandes amitiés, des grandes, et c'était quelqu'un de très séducteur. Hein. Il a d'abord par son art, par sa capacité, parce que on le dit pas souvent, je crois, mais c'est quelqu'un qui avait une très grande érudition, qui a lu beaucoup, qui a participé à des tas de chantiers, de réflexions. On sait que c'est quelqu'un, par exemple, qui a critiqué Descartes, donc c'est quelqu'un qui était dans son temps, qui était dans la pensée de son temps, qui était actif. Moi, ce qui me plaît, je ne sais pas si je l'imagine comme ça, mais ce qui me plaît, parce que ça manque un peu aujourd'hui, c'est ce côté batailleur et à la fois travailleur. Voilà. Et ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été capable d'entrer dans des grands chantiers de traduction, de réécriture, d'écriture personnelle, de combat de pensée, de combat politique aussi. Et en même temps, effectivement, quelqu'un qui a tout essayé, effectivement. Donc, ça en fait un personnage très attachant. Hein. Et peut-être, c'est ce genre de personnage qui, dans une époque, provoque l'époque et font apparaître dans l'époque toutes ces potentialités, une certaine virtuosité de l'époque, en fait. Et cette virtuosité de l'époque, elle est chez La Fontaine, voilà. Elle n'est pas chez tout le monde dans l'époque, effectivement. Il fait un constat d'une impuissance de la poésie à son époque. La poésie est arrivée à une forme de petite mort, à une forme de redondante qui ne suffit plus. Ça, c'est très, très intéressant parce qu'effectivement, il est l'héritier d'un monde extrêmement riche et il constate qu'aujourd'hui, à son époque, je veux dire, il constate que lui, son devoir, s'il plonge dans la poésie comme ça, c'est de renouveler quelque chose de l'acte poétique. Et il sera un des plus grands, effectivement, rénovateurs, en quelque sorte, de la fonction poétique même de son temps. Et dans la littérature française, il y a des hommes comme ça. Il y en a un que moi j'aime beaucoup. Ça va peut-être faire sursauter certaines personnes, mais pour moi, une grande figure littéraire française qui ressemblerait à la Fontaine dans ce travail-là de casser le moule dans lequel tout d'un coup la littérature est prise, eh bien c'est Victor Hugo. Pour d'autres raisons d'ailleurs, mais Victor Hugo, c'est celui qui va révolutionner le vers français au XIXe siècle, avant Mallarmé, avant Rimbaud. Voilà. C'est lui qui va faire péter le vers français. Voilà.
Il y a une légende qui dit que Molière a un dîner avec Racine, où tout le monde se moquait de La Fontaine, parce que La Fontaine est rêveur, on l'appelait le bonhomme, il est tout, un peu, toujours un peu en dehors du coup, ce qui n'était pas le cas de Molière et de Racine, et Molière aurait dit, pour défendre La Fontaine, « Ne nous moquons pas du bonhomme, il vivra peut-être plus que nous tous. » Sous-entendu, il aura une postérité plus importante, il rentrera dans l'espace classique plus que nous tous. Alors on a beaucoup de doutes sur ce témoignage, parce que à cette époque-là, Molière et Racine ne se voyaient pas du tout, ils étaient complètement brouillés, donc a priori c'est complètement faux, mais il y a de toute évidence une très très grande proximité et intellectuelle et sociale aussi entre La Fontaine et Molière. Hein. Ce sont deux bourgeois dont les milieux se ressemblent beaucoup. Tous les deux fils de bourgeois riches qui comptaient beaucoup sur l'ascension sociale de leurs deux fils. Probablement deux juristes à l'origine et deux bourgeois en rupture de ban, hein, qui ont probablement beaucoup déçu leur famille. Ce sont vraiment deux mauvais élèves de la bourgeoisie française de l'époque, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres hommes de lettres de cette époque.
Connais-tu la tortue qui habite rue ta rue? On l'a vu, elle a pu
dans l'huitième.
Dans un bar peint en noir, tenu par un homard, elle a bu, on l'a vu,
dans l'huitième.
Elle prend des cocktails compliqués. C'est pas une tortue d'eau douce. Non.
Avec Patrick Dandré, professeur de littérature française, Marc Escola, professeur de littérature française, Frédéric Boyer, écrivain et traducteur, Boris Donnet, maître de conférences en littérature française, Jean de Guardia, maître de conférences en littérature française, et Antoine Bisséré, spécialiste de l'histoire de la fable.
Elle boit des Manhattan, des Gin Fizz et des Pimm's, mais elle s'arrête toujours
au huitième.
Moi je vis à côté, et quand je la vois rentrer, elle marche pas toujours droit
dans l'huitième.
Elle prend des cocktails compliqués. C'est pas une tortue d'eau douce. Non.
Attaché de production Laurence Genepin, prise de son Patrice Klein, Laurent Lucas et Benjamin Chauvin. Les contes et les extraits des Amours de Psyché sont lus par Aurélia Petit. Et avec les voix de Louis de Funès, Lambert Wilson et Christian Haas.
Quand je m'ennuie le soir, je cours vite la retrouver dans ce bar peint en noir.
Dans l'huitième,
on prend des Manhattan, des Gin Fizz et des Pimm's, mais on s'arrête toujours
au huitième.
Oui, j'aime les cocktails compliqués. Je suis pas une tortue d'eau douce. Non.
Jean de La Fontaine, diversité, c'est ma devise. Mixage Benjamin Vignal. Réalisation Gilles Davidas. Un documentaire proposé par Virginie Bloch-Lenné.
La 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 la.
Cette tortue est très sympathique, bien qu'elle ait certains défauts. Mais comme tu sais, c'est difficile d'être parfait.